Tov. Shalom à tous. Nous sommes dans la suite de notre cours dans le livre du Rav Harlaf Ma'ayaneh HaYeshua Zatzal concernant Eretz Israël à deux niveaux différents. Le niveau premier, le niveau que nous voyons avec nos yeux, et le niveau supérieur, le niveau intérieur, qui dit intérieur dit supérieur, c'est le niveau de la névoa, qu'on appelle aussi chazon, c'est-à-dire de prévoir les choses, de voir les choses en profondeur. Nous avons expliqué que toute chose dans ce monde provient de l'infini, béni soit-il. Mais certaines choses se sont manifestées beaucoup plus dans la matière que d'autres. L'une des choses qui est restée dans son potentiel intérieur, c'est la terre d'Israël. Ça veut dire que malgré le fait que la création du monde a eu lieu, qu'il s'est produit un passage entre l'infini et le fini, et que la terre est apparue, dans la terre, il est resté un domaine qui a gardé le souvenir de l'infini. Et l'endroit qui a gardé le souvenir de l'infini, c'est la terre d'Israël. Pourquoi ? Tout simplement parce que le passage entre l'infini et le fini est passé par l'intermédiaire de Eretz Israël. En d'autres termes, la terre d'Israël a été créée en premier. Donc c'est la première apparition de la matière. Le premier passage de l'infini au fini. Ce qui veut dire que de la terre d'Israël, la suite du cosmos tout entier a été créée. Donc la terre d'Israël, de par cette nature-là, elle appartient aux deux degrés. C'est-à-dire elle est encore avec un souvenir de l'infini qui a précédé, et elle est en même temps une partie du monde qui vient du monde de la matière. La même chose pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, puisque c'est la pensée première d'Akadosh Baruch Hu, Alou Bemarchava Techila, eh bien, lorsque l'humanité va apparaître dans le monde, il va rester une mémoire dans le monde qui va être encore liée à l'infini. Et cette mémoire, au niveau humain, c'est le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est resté lié à l'infini. Et c'est lui qui aussi est, avec le passage, donnez-lui une chaise. Bravo. Sinon c'est moi qui me mets debout. Donc l'être Israël a gardé en lui, dans sa neshama collective, puisque quand on parle d'Israël, c'est au niveau collectif, l'âme qui a été créée, pas les individus. Les individus, après, c'est un autre travail. Mais à l'intérieur de nous, le côté essentiel, c'est la neshama de Klal Israël. Eh bien, nous avons gardé à l'intérieur de nous un souvenir actif de ce qui était dans la pensée divine qui a précédé la création. Alors nous avons vu l'espace, nous avons vu l'homme, et la même chose au niveau du temps. Bien, le temps est une création, c'est-à-dire que lorsque le monde est créé, il y a une introduction de la notion de temps qui n'existait pas avant la création du monde. Bien, le premier temps, si vous voulez, s'appelle Shabbat. Après ce Shabbat-là, commence à sortir des branches de ce Shabbat, c'est-à-dire c'est une matrice du temps, le Shabbat. Il est avant le temps. Il est la racine du temps dans ce monde. Et il est en même temps la pensée divine du temps. C'est-à-dire que le temps idéal, c'est Shabbat. L'homme idéal, c'est Israël. La terre idéale, c'est la terre d'Israël. Seulement, ce n'est pas encore dans leur apparition totale. Il faut faire un travail pour les faire apparaître. Ça, c'est l'idée première. C'est la matrice. Donc il faut que la terre d'Israël devienne ce qu'elle est dans son essence. Il faut que le peuple d'Israël redevienne ce qu'il est dans son essence. Il faut que nous arrivions à vivre notre temps au niveau du Shabbat. Et c'est pour ça que nous allons vers le Shabbat du temps. Yom shekulo Shabbat umnucha lechaya olamim. Non. C'est tout ça, c'est la Torah du Rav Kook. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler de ça. Je ne suis pas encore entré dans le texte. D'accord ? Je vous fais un résumé de tout ce que nous avons vu, survolé. Ça veut dire que nous avons ici affaire à des souvenirs actifs, un zikaron, une mémoire, plutôt qu'un souvenir, de 3 degrés que nous devons réatteindre. Nous sommes donc une charnière entre l'infini et le fini. Et au niveau de l'être, Israël, et au niveau du temps, Shabbat, et au niveau de la terre d'Israël. Pour connaître la terre d'Israël, puisque c'est notre sujet pour l'instant, profondément, on ne peut pas, vous comprenez maintenant, nous suffire d'une étude superficielle. Puisque dans une étude superficielle, tu ne verras que le côté terrestre de la terre. Nous avons dit que la terre d'Israël est une charnière entre l'infini et le fini. Donc, pour comprendre le secret de la terre d'Israël, tu ne peux pas le faire avec une étude du premier degré. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, que pour voir réellement la terre d'Israël, il faut étudier le sens profond de la Torah, et donc le sens profond de cette terre-là. Nous sommes donc dans le troisième paragraphe, Bechina Zot, Mitgalemet Beikar, Beyachas l'Eretz Israël. Pour comprendre réellement le lien avec la terre d'Israël, Eretz Anevoa, il faut comprendre que c'est la terre par laquelle la prophétie passe. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? La parole divine à l'homme, adressée à l'homme. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, descend sur terre, il emprunte un seul canal. Eretz Israël. C'est pour ça qu'on appelle cette terre la terre de la prophétie. Donc les prophètes sont des prophètes qui sont sur la terre. Les frontières de la terre d'Israël permettent la prophétie. Pourquoi ? Justement parce que c'est encore une terre qui a gardé le souvenir et la mémoire de l'infini. Donc elle est capable, cette terre-là, de contenir, de recevoir les paroles de l'infini dans ce monde fini. Donc il n'est pas possible autrement. La même chose, Am Israël est le prophète des nations. C'est-à-dire, si on veut savoir ce que le divin veut, on est obligé de passer par Am Israël, par le peuple d'Israël. Car c'est lui qui a reçu cette prophétie. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la mémoire divine, il a gardé encore une trace en lui de ce qu'il y avait avant. Donc il est capable d'entendre le avant et l'après. Okay ? Non. Israël. D'accord ? Troisième degré, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un temps qui n'en est pas un. C'est pour ça qu'on n'appelle pas le Shabbat Zman. Le Shabbat est un Yom. Il y a une grande différence entre Yom et Zman. Zman, c'est déjà lié au terrestre. Alors que Yom, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc les jours profonds ne s'appellent pas Zman, ils s'appellent Yom. Pourim est appelé Yom. Yom HaKippourim est appelé Yom. Shabbat est appelé Yom. Alors que des temps s'appellent Zmanim. Donc il y a une différence. Donc le Yom, par définition, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat à partir duquel nous fêtons toutes les fêtes. À tel point que la Gemara nous dit que quelqu'un qui profane Yom Tov, c'est comme s'il profanait le Shabbat. Pourquoi ? Parce que Shabbat est à la racine de tous les temps. Et non seulement Yom Tov, mais si tu profanes tes jours normaux, tu ne les remplis pas de Kodesh, tu ne les lis pas, relis pas au Shabbat, qui est la source du temps, bien même tes jours sont gaspillés. Et les jours qui sont gaspillés, c'est parce qu'ils n'ont pas été reliés au Shabbat du temps. Qu'est-ce que cela veut dire de facto ? Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dois donner un sens shabbatique à ce que je suis en train de faire. Et donc les sages vont vous donner des exemples. Quand j'achète, un poulet, je dis pour Shabbat. Et si demain je trouve un plus beau, je dis aussi pour Shabbat. Et l'autre, je le mange. C'est-à-dire pourquoi ? J'ai un seul but dans la vie, c'est d'arriver à mon Shabbat. Toute ma référence, c'est le Shabbat. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon idéal de vie, c'est un temps shabbatique, où mon âme et mon corps profitent tous les deux. Et non pas seulement découpés de ce monde. Okay. Ben on fait ça, on doit arriver à ça, mais Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le Shabbat directement. Il nous a laissé une place. Asher bara Elohim la asot. Rappelez-vous de ce verset. La place qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissée, la asot, qui signifie tikkun, nous devons participer à l'accès au Shabbat. Pour accéder au Shabbat, nous devons être associés à Akadosh Baruch Hu. Donc si Akadosh Baruch Hu nous avait donné déjà les choses toutes faites, on n'a aucun sens, aucun plaisir, non seulement aucun mérite, mais aucun plaisir de la chose. Quand vous faites quelque chose de vos mains, quand vous travaillez pour quelque chose, quand vous pensez quelque chose, le jour où cette chose est acquise, vous ressentez une simcha. Et comme Akadosh Baruch Hu veut nous donner une joie de vivre, eh bien il nous donne la possibilité de devenir associés pour arriver au Shabbat du temps. Qu'est-ce que nous devons faire pendant les 6 jours de la semaine? Préparer notre Shabbat. Alors c'est au niveau semaine, hebdomadaire, mais c'est au niveau du temps, bien entendu. Nous sommes dans les 6000 ans, comme les 6 jours de la semaine, pour arriver au 7e millénaire, pour arriver au Shabbat. Donc nous avons 6000 ans, comme nous avons 6 jours dans la semaine. Et comme dans les sphères spirituelles, il y a 6 sphères qui accèdent à la 7e sphère, qui est le dévoilement, la Malchoute. Donc, tout est basé sur le chiffre 6, qui, le chiffre 6, indique les directions et les sens, okay, pas l'apostrophe, les sens de toute l'existence, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest, le haut et le bas. Toutes les directions qui doivent aboutir au centre. Le point central, c'est la royauté, c'est celle qui va dévoiler le tout. Donc à chaque fois la lettre Vav ou le chiffre 6, c'est pareil, c'est une lettre qu'il faut dévoiler dans la 7e mesure, dans le 7e degré. Le 6 a besoin de son 7. Le 6 c'est l'homme, le 7 c'est la femme. D'accord ? La femme est liée au chiffre 7, l'homme est lié au chiffre 6. Et c'est comme ça que la terre d'Israël devient la terre donc de la prophétie, où Akadosh Baruch Hu parle aux hommes et dévoile aux hommes le but même de la création. Donc le but, c'est pas seulement d'être un grand Talmid Chacham, étudier la Torah, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut arriver à comprendre quel est le sens même de la création du monde. Et pour comprendre quel est le sens de la création du monde, il faut bosser, il faut travailler. Mais on vous le dit d'une manière générale, le sens de la création du monde, c'est que toutes les valeurs de l'infini descendent au maximum dans ce monde fini. Et pour ça, il faut un intermédiaire, il faut un canal. Et ce canal, c'est ces 3 degrés que je viens d'indiquer, donc le temps, Shabbat, l'espace, la terre d'Israël, et l'homme, Am Israël, le peuple d'Israël. Okay.
Le 8e jour, c'est quoi? C'est l'homme et la femme en même temps?
Exactement. Le 8e jour, c'est un degré profond. Okay. Combien de noms possède le Shabbat?
2.
Premier? Il y a fait. Le 7e jour. Le 2e? Shabbat. Quelle est la différence entre les deux noms? Un est un chiffre et l'autre est un nom. Okay, les chiffres et les lettres. Qu'est-ce qui est plus grand, un chiffre ou un nom? Un nom. Ça veut dire que celui qui vit son Shabbat seulement comme si c'était un jour de plus dans la semaine, donc pour lui, le Shabbat, c'est seulement le 7e jour. Mais il n'est pas encore en train de vivre son Shabbat. Dans le Kiddush, on dit « La asot est à Shabbat ». J'arrive à grimper dans mon 7e jour, pour arriver au nom, N-O-M, Shabbat. Donc Shabbat, c'est quel chiffre? Le 8. Donc quand tu trouves Shabbat, quand tu fais Shabbat, tu vis le 8 dans le 7e jour. Et ça, c'est tout le secret. Vivre le 8 dans le 7. Vous êtes avec moi ou je parle seul? Ok? Donc, Kol Misheruach HaSod Ofef Et Oto, dit le Rav, tout quiconque là, le souffle du secret Et je vous ai déjà dit à maintes reprises que signifie le mot sod en hébreu ? Groupe. C'est-à-dire tout celui qui voit, quiconque voit l'ensemble et non pas seulement les détails, c'est ça le sod. Donc la Torah du sod, la Torah des secrets, c'est la Torah de la vision globale et non pas la Torah des détails seulement. Mais quiconque étudie la Torah de cette manière, on mera chefet alav, il a en réalité un souffle complet, de complétude dans sa direction de vie. Chash ou margish, eh bien il sent. Et il ressent. Benis gavot erka shel eretz Israël. Il sent le véritable niveau de la terre d'Israël. Quiconque n'a pas cela ne peut pas comprendre. D'où est-ce que le Rav tire cet enseignement? Du Rav Kook. J'ai ici Oroth. En Eretz Israël, je suis dans le premier Perek Eretz Israël, dans le deuxième passage, Bet. Al yedei hitrachakut mehakarat harazim, quiconque n'étudie pas et n'a pas la connaissance des secrets de la Torah, ba hakara shel kedushat Eretz Israël betsura metushteshet. Bien, il ne pourra jamais voir Eretz Israël clairement, il voit toujours flou. Pourquoi? Parce qu'il n'étudie pas le sod, il n'étudie pas le secret. Donc il n'étudie que des parcelles de Torah, il n'étudie pas la Torah du complet. Comme un médecin qui étudie des membres, mais qui ne connaît pas le corps et l'ensemble organique de tout l'être. Vous comprenez bien la différence. Quelqu'un qui traite le lobe de l'oreille et quelqu'un qui connaît l'ensemble organique du corps tout entier. Une grande différence. Eh bien, l'étude de la Torah, du sod, c'est-à-dire l'étude globale, l'étude qui englobe le tout, qui voit le tout, qui voit l'âme globale de la nation et non pas seulement l'homme individuellement parlant qui prépare son petit olam haba privé. Mais tout ceci te brouille la vision de la terre d'Israël. Pire encore, dit le Rav, al yedei hitnakrut el sod Hashem. Si vous sortez contre cette étude, pour différentes raisons, chacun ses raisons. Un va dire c'est interdit, on m'a dit que c'était interdit. L'autre va me dire j'ai pas l'âge, l'autre va me dire j'ai pas je sais pas quoi. Chacun va dire des raisons, il y en a plein. Eh bien, Aït Nakrout, quelqu'un qui se moque de cette étude et qui la refoule en réalité, Naasot Asgulot Ailionot Shel Emek Achaim HaElohim, les Dvarim Tfelim. Mais toutes les choses les plus importantes dans sa vie, il ne les comprendra pas. Tout va devenir. Pas flou, batel, tafel secondaire. Ken fad, il n'y a rien. Sheinam nichnasim be'omek haneshama, donc il n'aura pas la vision réelle de la chose en question. Ou mimeile, et alors qu'est-ce qui va se passer? Dit le Rav, yechesar hakoach hayoter adir benishmat ha'uma ve'yachid. Ça va être un manque, et au niveau de la société tout entière d'Israël, et au niveau de l'individu lui-même. Et qu'est-ce que la conséquence de cette chose-là? Regardez comment les choses se relient. Vehagalut motzetchen be mitzad atzmuta. Il va commencer à aimer la galut. Il va commencer à aimer l'exil. C'est-à-dire pour lui habiter ici ou ailleurs, c'est pareil. L'essentiel, c'est qu'il étudie. Okay? Donc il est en dehors du système complet. Il n'a rien compris. Ki mamasigra ketachetach hagalui. Et là, le Rav rentre un petit peu plus dans les détails. Quiconque ne connaît que la partie dévoilée de la Torah. Donc, Mishnah Agmara, lo yechsar shum davar yesodi. Il ne lui manque rien, il a l'impression qu'il est complet, qu'il étudie tout. Mais il n'a pas en réalité le fondement. Bechesron haaretz v'amamlacha, et donc il ne comprend rien, ni à la terre d'Israël, ni à la nation d'Israël sur la terre que le Rav ici appelle royaume. Tochne ha'uma b'biniana, et toutes les expressions de ce royaume d'Israël qui va se dévoiler sur sa terre, donc dans son état, dans l'état d'Israël. Et donc, Yesod Tzipiat Yeshua, chez lui, l'attente messianique de la délivrance, Hi Etzlo Kemo Anaf Tzdadi, ça va devenir quelque chose qu'il met de côté. Bon, ça va, il y a la Géoula, mais on s'en fiche, étudie. Bien, il y a plus, c'est plus le sujet principal. Donc c'est un homme qui n'a pas compris le sens profond du judaïsme. Et le Rav est en train de nous dire par là même que le sens profond du judaïsme, c'est d'étudier la Géoula. C'est le sujet principal pour lequel le monde a été créé. Et je répète, que veut dire le terme Géoula? Le dévoilement de l'infini dans le monde fini. C'est ça la Géoula. Veze be'atzmo adavar ameid al chesron ha'avana. Et un homme de cette qualité-là montre combien il ne comprend pas. Sheyesh be'shitat ma'atet aleshet kazot, dans cette chita-là, qui affaiblit l'âme du juif. Donc la chita qui n'étudie pas le secret et qui ne met pas le secret au même niveau que son étude. C'est pas qu'on est en train de dire que l'étude du reste n'est pas une bonne étude. Pas du tout. Elle donne à l'homme une partie de ce qu'il doit être, nécessairement. Le problème, c'est que si la partie du secret n'existe pas, c'est comme s'il y avait un corps sans neshama. Et donc, il y aura une hashpa, sur grande hashpa, sur le souffle, l'esprit même de la nation d'Israël. Et là, la conclusion, je termine avec ça, les passages du Rav Kook, le Bet Ze Asson, il dit c'est une catastrophe. She'anu chayavim lilchomoto, que nous devons combattre. C'est-à-dire, il faut combattre ce système-là de pensée qui éloigne de notre étude la vision profonde de la Torah. Be'etza ou bitvuna, et pour cela il faut beaucoup de bon sens, il faut beaucoup de discernement. Be'kdusha ou be'gvura, il faut une sainteté, mais en même temps il faut de la force et savoir ce que tu es en train de dire. Ok.
Mais, nous pourquoi on sert Hachem pour se rapprocher de lui?
Non, on ne sert pas Hachem pour se rapprocher de lui. On sert Hachem pour qu'il se rapproche de nous.
Voilà.
Ok. Mais pas pour qu'il se rapproche de nous au niveau individuel, pour que je devienne un canal par lequel il passe pour le monde entier, pas pour moi.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que après, il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif.
Tout à fait.
C'est ça la différence entre les différents...
Nachon. Mais il y a une vision globale que l'homme doit... Pas du tout, au contraire.
Est-ce que les gens vont dire que Maïmonide, par exemple, il n'était pas du tout axé sur le secret?
Il le connaissait, mais il n'en parlait pas.
Il ne voulait pas en parler.
Non, pas du tout. Il n'en parlait pas, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a dirigé volontairement sa vie pour nous donner quand même une manière de vivre. C'est-à-dire que ça aussi, c'est important, comme je viens de le dire. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir comment je vis. C'est à son époque qu'il avait besoin de ça. Ça veut dire que le peuple, sans les halachot du Rambam, le Shmona, Ken, mais, le Yada Chazaka, le Mishneh Torah, eh bien, on n'aurait pas fini la Gemara tout entière. C'est-à-dire qu'il a pris toutes les Gemarot et il dit même, c'est même pas la peine d'étudier la Gemara. Alors tu n'étudies pas la Gemara, tu étudies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux comprendre immédiatement la halacha, va voir le Yada Chazaka du Rambam. Et à son époque, c'est très important de savoir comment faire les choses. Mais il ne dit pas, Chas v'Shalom, que la partie intérieure n'existe pas. Seulement, lui a préféré mettre tous les jours de sa vie...
C'est pas comme ça qu'il faut travailler.
Non, 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 il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Au niveau de la halakha.
Non, aussi au niveau du
Moussa. Mais tout ça, c'est pour arriver à comment faire. D'accord? Aujourd'hui, on n'est plus dans le comment faire seulement, on est dans le pourquoi faire. Et donc, c'est une grande différence dans le temps. Et il faut accepter que les périodes changent et qu'il y a une évolution dans le monde et dans le peuple d'Israël. Okay? Quand tu manges, est-ce que tu manges que des entrées? Non. À chaque fois que tu manges une entrée, un plat principal, un dessert. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre une glace et un morceau de poulet? Non, il n'y a pas de contradiction. Chaque partie fait partie du repas. C'est-à-dire le repas est composé de 4 degrés, comme l'étude de la Torah.
Mais pourtant, lui, dans sa perfection personnelle, qu'il faut pour le peuple juif, il ne dit pas qu'il faut étudier le sol et que c'est ça qu'il faut faire.
Il te dit qu'il faut arriver à vivre la halakha telle qu'il te l'a dit. Mais il t'a pas dit qu'il n'y a pas d'autres degrés. Viennent les autres et vont compléter. Le Rambam, c'est pas le seul. C'est rempli de sod. Donc le Rambam n'est pas le seul. Il y a le Rambam juste à côté qui vient compléter le Rambam.
C'est pas difficile, c'est
pas un problème de lier les deux méthodes. Non, il n'y a aucun problème. Il y a un problème de lier ta neshama et ton corps. Le problème, c'est de ne pas les lier. Donc tu es en train de contredire ce que tu as dit tout à l'heure. Ben oui. Puisque ce que tu es en train de dire du Rambam, tu es en train de dire qu'il est en train de faire travailler sa neshama dans cette étude. Ça veut dire qu'il conçoit qu'il y a une partie secrète. Son étude, elle contient en elle une partie secrète qui déjà donne une façon de voir à ta neshama, à ton corps. Tu sais ce que ça veut dire la Kabbalah? Non, mais est-ce que tu as étudié la Kabbalah? Nahon. Et tu crois que le Rambam ne savait pas ça?
Je ne dis pas que le Rambam ne savait pas ça, mais il n'a pas enseigné qu'il fallait, pour atteindre Dieu, il fallait enseigner ça.
C'est ce que je suis en train de te dire. Tu as pris le Rambam comme une référence unique.
Mais pourtant, il dit qu'on peut atteindre son âme et Dieu sans ça.
Nahon. C'est une partie correspondante à une époque, mais tu ne peux pas prendre un grand d'Israël et faire comme s'il n'y avait rien à côté. Okay. Il y a des Gdolim à côté. Donc ça veut dire qu'il y a chacun avec sa manière de voir, chacun, c'est comme les doigts de la main.
Mais est-ce que finalement mélanger, c'est pas...
Je suis en train d'expliquer que non. Il n'y a pas un problème de mélanger parce que tu ne mélanges pas les choses. C'est comme si tu me disais que l'homme n'est que le corps. Pas du tout. Alors je ne mélange pas le corps et l'âme, mais ils sont imprégnés l'un de l'autre. Un vit à l'intérieur de l'autre. Il n'y a pas de halakha, il n'y a pas de pshat qui ne soit pas rempli de Kabbalah à l'intérieur. Ça n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vient de l'infini. Donc chaque halakha que tu fais, elle est imprégnée automatiquement du sens le plus profond. Donc tu ne mélanges rien du tout. C'est déjà mélangé.
Mais j'ai compris le fond de sa pensée simplement, c'est pour dire s'il y a des autres chitot, alors pourquoi pas pour les deux, comme ce qu'il veut dire, c'est-à-dire les autres chitot, on va dire cette chitot, c'est ça que tu veux dire à peu près? Alors c'est chacun ça.
Stop. Quand tu vis, c'est ton âme ou ton corps? Écoute-moi. 5 secondes. Ton âme ou ton corps qui marche? Les deux. Tu n'as pas un problème à les faire lier ensemble? Exactement. C'est la même chose. L'âme de la Torah, c'est la Kabbalah. Le corps de la Torah, c'est la Halakha. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Mais vadaï. Quand il te parle dans le Shmona Parakim des 5 degrés, des degrés du Nefesh, et qu'ils te disent que c'est tout une seule et même chose, c'est de la Kabbalah. Seulement, ils n'utilisent pas le terme, mais ils te l'apportent exactement ce que ça veut dire.
Le premier Perek de Sefer Amana,
c'est
que des Rodes de
Mouna. Tous les Galgalim et tout. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur, il n'a pas utilisé les termes kabbalistiques, entre guillemets, mais il en parle normalement, naturellement. On ne peut pas séparer les choses. Si tu sépares les choses, c'est comme si tu séparais le corps de l'âme, donc le corps ne peut pas exister sans l'aneshama. Chaque lettre est imprégnée déjà d'infini. Quand il te dit en ouvrant son livre, Ken, tu dois savoir et être persuadé et réaliser qu'il y a un être suprême, unique, Ken, duquel tout est vivant. C'est quoi ça? C'est pas de la Kabbalah? Ça, c'est du pshat. C'est extrêmement du pshat. Tu peux comprendre, explique-moi au niveau du pshat comment nous vivons de l'infini.
On vit dans un créateur qui a tout créé.
Et ça, c'est du pshat.
Ouais.
Pas du tout. Le pshat, c'est ce que tu touches et ce qui est réel dans ton action. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça veut dire que le Rav est en train d'utiliser des valeurs qui sont infinies, mais qui sont habillées dans des vecteurs de chaque jour. C'est tout. Donc je... Est-ce que c'est ta main qui écrit? Non. J'ai jamais vu une main écrire, moi. C'est ton âme qui écrit à travers l'instrument qui s'appelle ta main. D'accord ? C'est tout. C'est la même chose. Quelqu'un qui dort, je peux lui mettre un stylo, il est toujours vivant, et je lui demande d'écrire, ni il m'entend, ni il me voit, ni il me sent, ni il me goûte, et il vit, il n'est pas mort. Et je lui mets un stylo dans la main, et je lui demande d'écrire, il ne comprend rien du tout, il ne fait rien du tout. Pourquoi ? Parce que sa neshama n'est plus là, dans son ensemble. Ça veut dire qu'il est comme un légume. Au moment où sa neshama revient dans son corps, donc le lien des deux, va faire en sorte que sa neshama va donner un ordre à son ange, qui s'appelle la main, en l'occurrence, pour écrire. Ça, c'est un ange. Je demande à mon ange d'aller lever ce verre et de le reposer.
Oui, ce que je veux dire, c'est que dans la Kabbalah de Maïmonide, comme vous avez la Kabbalah de Maïmonide, c'est pas pareil.
Mais je n'ai pas dit que c'était pareil. Oui. Pas besoin d'être pareil. Chacun a une manière, une approche.
Voilà.
D'accord. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas parlé de ça. Mais tu es obligé d'étudier tout le monde. Est-ce que tu as étudié le Ramban?
Non, enfin, un petit peu. Quoi.
Pourquoi? Pourquoi tu n'étudies pas que le Rambam toute ta vie?
Parce que, justement, c'est une bonne question. Parce que...
C'est ce que je suis en train de te poser. Est-ce que nous faisons ça?
Non.
Pourquoi?
Mais c'est...
Mais justement. Mais les sages nous disent que c'est pas comme ça que tu étudies. C'est pour ça que je t'ai donné l'image de tout à l'heure. Tu ne peux pas manger que des entrées toute ta vie. Okay. Tu as besoin de savoir que ton être est divisé en plusieurs niveaux. Encore une fois, tu prends Maïmonide comme si Maïmonide avait dit des choses contre tout le monde autour et qu'il a dit « Ma Torah, c'est la seule, c'est moi maintenant Moshe Rabbeinu, c'est fini, oubliez tout le reste. » Il n'a jamais dit ça. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Je vous donne mon aspect à moi. » C'est important ce que tu dis. Mais chacun va donner son aspect et toi, tu dois construire ta vie. C'est pas parce que j'étudie le Rav Kook que je ne vais plus étudier Rashi. Ou Rabbi Nachman, ou Rabbi Shneur Zalman. Ken, je suis obligé d'être imprégné de tous les degrés parce que je suis quelqu'un qui est complexe. Je ne suis pas une poupée qui vit qu'à un seul degré de sa vie. Je vis à tous les degrés. C'est comme si je te pose la question maintenant, qui en toi est en train d'étudier maintenant la Torah ? Quelle partie de toi ? Pas du tout, tout entier. Si c'est que ton esprit, c'est pas la vraie étude. Tu comprends ? Donc tu dois être dans le sentiment, dans le ressenti, dans le cervical, dans le potentiel imaginaire, dans ton corps, tout kol atzmotai tomarna Hashem mikamocha. Je dois être une entité entière. Je peux pas séparer les morceaux. Séparer les morceaux, c'est vivre dans une folie, chas v'shalom. Et c'est ça la maladie.
Okay. En vrai, la peinture, c'est un aspect de la vie.
Nahol. Mais il y a des gens qui vont donner le poids. Mais j'ai dit ça parce que je répète ce que je dis, comme j'ai répété le Rambam. Il y a des gens qui sont plus portés, plus facilement chez eux, ce côté-là qu'un autre. C'est tout. S'ils peuvent le faire, bien entendu. Mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. D'abord, ils n'ont pas le temps de tout développer.
Okay.
Et il faut en plus une, comme il dit, une volonté. Et en plus de ça, tu vois que tu réussis dans certaines matières plus que dans d'autres. Alors, c'est pas la peine que si mon fils n'est pas mathématicien dans sa tête, que je le bourre de mathématiques. S'il est plus doué pour l'art, je vais lui dire, écoute, notre vie, elle n'est pas très longue. Hein, de 80, bi'ainara, encore c'est beaucoup. Okay. Alors, investis-toi dans un degré, ça ne veut pas dire que les autres sont fausses. Mais toi, tu es bon, excelle dans ce que tu fais. C'est tout. D'accord ? Donc, nous revenons à notre texte. Alors, Vekol Hagvil, et là, c'était la dernière partie de la dernière fois. Le Gvil, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est ? Le parchemin. Gvil, c'est le parchemin. Un accent sfarad. Qu'est-ce que c'est Gvil? De quel mot vient le mot Gvil? Go. Qu'est-ce que c'est Go en hébreu?
Go.
Oui, Go, pas en anglais, en hébreu. Non. Qu'est-ce que ça veut dire Go en hébreu? Non, allez, c'est en anglais. Go, c'est l'intérieur. D'accord? Go. Yesh dvarim be go. D'accord?
Ah, l'ego.
Go. Gimel Vav. Ça veut dire à chaque fois que tu parles de Go, Gimel Vav, en araméen Gvé, ça veut dire intériorité. Et extérieur, comment on dit? Bar. D'accord? Bar dehors, Go à l'intérieur. Donc Gvil, ça sous-entend une forme intérieure. Alors justement, le parchemin est intérieur par rapport à quoi? Aux lettres. Ça veut dire que quand vous regardez un texte, ne serait-ce que le texte que vous avez devant les yeux maintenant, vous voyez un parchemin qui est blanc, et vous voyez des lettres noires placées, plaquées sur le blanc. Les lettres sont de l'extériorité, c'est-à-dire un dévoilement, et le blanc c'est de l'intériorité, c'est-à-dire de l'ordre de la Neshama. Comment est-ce que je fais pour écrire une lettre, je peins une partie du blanc. Qu'est-ce que ça veut dire donc peindre une partie du blanc? Habiller. Je mets un vêtement. Ici, c'est de l'encre noire. D'accord? Je mets de l'encre noire sur une partie du blanc. D'accord? Autrement dit, tout le texte était déjà où? Dans le parchemin blanc. Mais ne se voit de ce parchemin blanc que ce que j'ai pu habiller. Comme notre Neshama. Notre Neshama, comment est-ce qu'elle est en train de parler à travers ma bouche? C'est ma Neshama qui parle. Pourquoi elle se dévoile? Parce que j'ai habillé, j'ai un vêtement. Mon vêtement, c'est mon corps. Mon corps, c'est le vêtement de ma Neshama. Donc, elle peut se dévoiler. La lettre, c'est le vêtement du parchemin. Vous comprenez? Donc, le scribe, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il habille des morceaux d'infini. Et il les sort vers nous, il les met en relief. C'est pour ça que les lettres sont un relief par rapport au blanc. Mais on peut dire, au niveau philosophique, que toutes les lettres étaient déjà dans le blanc. Seulement, elles n'apparaissaient pas encore. Il faut que quelqu'un vienne habiller ce blanc par des morceaux de noir. Donc le vêtement, par définition, il est noir parce qu'il dévoile. Ok ? Non, tu es en train de parler de ton corps. Non, non. Le vêtement est beaucoup plus petit. C'est pour ça qu'il ne dévoile qu'une partie, en réalité. D'accord? Donc tu crois que tu as habillé ta Neshama, mais en réalité, tu n'as habillé rien du tout. Donc le peu de texte que nous avons, il nous dit quelque chose. Mais il y a encore beaucoup plus à apprendre du blanc, qui n'a pas encore été peint en noir. Vous comprenez? Donc la majorité de la feuille, c'est du blanc ou du noir?
Du blanc.
Du blanc. La totalité de la feuille, c'est du blanc ou du noir? Du blanc. Parce que même sous la lettre, il y a du blanc. Donc, moralité, je n'ai pas enlevé le blanc, j'ai tout simplement habillé. Il n'y a qu'à tourner la feuille. Vous voyez que tout est blanc. Donc moralité, la Neshama ne peut pas être perturbée. Elle ne peut être que habillée par quelques degrés. Donc les lettres ne sont que des vêtements qui font venir l'infini au fini. Comment est-ce qu'on dit faire venir? Je vous l'ai dit déjà. En araméen, Ata. Ata veut dire venir. Donc la lettre, Ot, veut dire je fais venir de l'infini vers moi. Non, au contraire, il faut l'habiller.
Donc il faut savoir... Okay.
Il faut savoir donner un vêtement qui correspond à la Neshama. D'accord? Donc le vêtement est important. Parce que les vêtements, ça sert d'auto. Non, c'était un jeu de mots.
Les vêtements,
c'est
la
fleur. Mais
quoi, les vêtements?
C'est pas plus juste,
c'est
l'encre. Hein? C'est pas plus juste, c'est à l'aurore de l'encre, on va dire. Si, les lettres, c'est les vêtements qui font venir à l'encre.
Quel? Nous sommes la lettre. Nous sommes les lettres de l'infini. Exactement. D'accord? C'est-à-dire, nous représentons les lettres de l'infini. C'est pour ça que chacun de nous a une lettre dans le Sefer Torah. Et c'est pour ça que quand on lève le Sefer Torah, tu regardes la lettre avec laquelle ton prénom commence. Ok?
Vous avez dit le noir, il n'a pas d'influence sur le blanc, parce que si on tourne la page, il n'a pas la blanche.
Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'influence. Il ne peut pas perturber le blanc. Non.
Parce que la bille, ça
ne fait pas le moine.
Ça perturbe l'homme.
Mais ça ne perturbe pas sa neshama. Non, ça perturbe le dévoilement, mais pas sa neshama.
Parce qu'on dit qu'une femme, grâce à ses habits, c'est où ? Ça veut dire une femme intérieure dans la.
On dit, tu es en train de me dire on dit. Je suis en train de t'expliquer que la neshama est imperturbable. Tu l'as dit ce matin en plus. À moins que tu mentes. Qu'est-ce que tu as dit ce matin ? Quand tu t'es levé, Elohai neshama, shenata tabi, teora. Alors demain matin, tu ne dis plus. Tu mens. Alors, tu comprends ce que je suis en train de te dire. La neshama est imperturbable. Ce qui est perturbable, oui, et là je suis d'accord avec toi, c'est le dévoilement que tu étouffes. Mais la neshama elle-même, elle n'a rien, elle ne peut pas bouger. Tu étouffes sa possibilité de s'exprimer.
Grâce
aux vêtements, tu peux ou mieux exprimer ou moins bien exprimer. Mais la neshama elle-même, tu ne peux pas la toucher. Non. D'accord ? Un juif, même s'il a fauté, il reste Israël dans son propre intérieur. Seulement le dévoilement de ce Israël ne peut pas sortir. Non, tu ne peux pas salir une neshama. Parce que justement, pour montrer qu'elle est tout le temps théora. C'est-à-dire qu'elle est imperturbable. Non, pas du tout. Elle ne se purifie pas, elle n'a pas à se purifier. Elle est déjà pure d'essence. C'est une partie divine. Ouais. Si ton vêtement, si ta chemise a une tache, c'est toi que tu jettes dans la machine ou la chemise? La touma, c'est que extérieur. Physique. C'est superficiel. D'accord? Quel? Jamais. Un juif ne peut jamais perdre sa qualité d'Israël. Très clair là-bas. Ça veut dire que tout le monde a, c'est le premier verset, donc ne l'oublie pas. Tout le monde a. Et ce que la Gemara te dit que certains vont perdre en réalité, ils vont perdre quoi ? Par leur neshama. Ils vont perdre la possibilité de dévoiler cette neshama, donc on va le donner à quelqu'un d'autre de dévoiler. Mais cette neshama, elle est toujours vivante. La neshama reste vivante, c'est une forme de vie imperturbable, immuable, intransformable, qui n'est pas liée au temps, ni aux actions, ni à rien du tout. Ce que tu peux gâcher, salir, c'est les vêtements qui vont entourer cette neshama. Alors il y a plusieurs vêtements, et ceux-là tu peux les perturber, mais la neshama, rien du tout. À tel point que les sages nous disent que quand un homme faute, sa neshama elle sort. Elle le quitte, pour ne pas justement, parce qu'elle n'a aucun rapport avec lui. Donc il devient comme un mort qui n'a pas de neshama, donc il est rentré dans un système où il n'est plus lui-même. On lui rajoute une parcelle. Karet, c'est sortir de l'ensemble de la Houma, mais en réalité, il y a d'autres textes qui nous disent Loïdach Mimenonida. C'est-à-dire, pour l'instant, il est retranché, mais en réalité, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que cette même Neshama revienne dans d'autres formules que Akadosh Baruch Hu connaît lui-même. Je ne veux pas rentrer maintenant parce que c'est vraiment de la Kabbalah.
Quels sont
ces vêtements ? Ça s'appelle le Tselem. Le Tselem. Elohim. Okay? Le Tselem, c'est pas le corps en chair et en os, c'est avant celui-ci, c'est le corps avec lequel on se balade une fois qu'on quitte ce monde. Ça veut dire qu'une fois qu'on quitte ce monde, c'est pas la Neshama qui se balade, elle est encore habillée d'un autre vêtement, le même qu'on avait dans ce monde, mais beaucoup plus fin, transparent. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans les films, un petit peu comme une transparence? Et c'est comme ça que les Neshamot se reconnaissent dans le Gan Eden. D'accord ? Mais ce n'est pas encore la Neshama. Ce n'est pas physique. C'est toujours superficiel par rapport à la vraie essence qu'on appelle Neshama.
Ça veut dire que si même au Gan Eden, ce n'est pas ça qu'on est, c'est-à-dire on n'en aura jamais conscience de ce
Exactement. La Neshama qui est à l'intérieur de nous, c'est une partie divine qu'on ne peut jamais réellement connaître. Tout à fait. On peut seulement dévoiler des parcelles en mettant des vêtements adéquats. Donc à chaque fois que je choisis un bon vêtement, je vais appeler ça d'une autre formule pour que vous compreniez bien, un kli ou une mida, une mesure, une vertu de vie, bien je vais dévoiler une parcelle de moi qui était à l'intérieur, qui est toujours à l'intérieur de moi, mais maintenant je vais la dévoiler. Et donc je ne suis que ce que je peux dévoiler de ce que je suis à l'intérieur. Vous comprenez bien ? Ça veut dire que je suis plein de choses. Mais combien j'ai vécu de ces choses-là? Rappelez-vous l'histoire du portable que je vous ai dit la dernière fois. Dans le portable, il y a beaucoup d'applications, mais moi j'ai utilisé 3, 4, 5. Il y en a des milliers. Donc qu'est-ce que j'ai vécu de ce portable? Que les 5 applications que j'ai. Mais non, alors, j'ai pas fini, on va envoyer quelqu'un d'autre qui est toujours le moi sous un autre vêtement.
Qu'est-ce que la Neshama, elle change ou elle s'améliore?
Elle ne change pas, la Neshama. J'ai dit immuable, intransformable, rien du tout. Tout ce que vous connaissez du mot changement, ça n'existe pas au niveau de la Neshama. Ça n'existe pas. Tu ne peux que rajouter des vêtements et faire apparaître des parcelles nouvelles dans ta vie. C'est tout.
Ce que j'ai moché dans le psaume, qu'on vit que 80, 70, 80 ans, qu'en vérité, on n'exprime pas exactement tout ce que toute notre
possibilité. Il y a fait.
On est très, très limité par nos actes.
Nahon, exactement. Et donc les lettres, ce sont nos actes. Voilà. Les lettres, c'est Israël. Donc chacun de nous a une lettre qu'il doit développer pour développer la Neshama qui est en lui au maximum. D'accord ? Ah, il a fait. Alors justement, la même chose au niveau de l'âme collective, elle ne peut pas se dévoiler si le vêtement terrestre ne correspond pas. Donc de la même manière que je dois m'acheter des vêtements qui correspondent à ma taille, si je me mets du 62, je vais être comme un pyjama, je ne vais pas pouvoir bouger. Chaque fois que je vais écrire, je vais me salir les mains. Eh bien, il y a une terre qui correspond à ma nature pour me dévoiler au maximum. C'est-à-dire optimal. Donc la terre d'Israël, c'est la terre optimale pour dévoiler le divin pour le peuple d'Israël. C'est tout. C'est le vêtement qui correspond le plus à notre nature. C'est aussi simple que ça. Ken ?
Est-ce que pour trouver la
Ken ? C'est pour ça que le Rav a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des degrés qu'on n'a pas vus, mais qu'il faut dévoiler l'une après l'autre. Et pour ça, il faut étudier les séphirotes, c'est-à-dire toutes les formes de mesures qui sont en nous. Sphira vient du mot comptabilité, l'ispor. Donc je dois savoir les mesures de ma vie. Donc je dois étudier. C'est encore une étude à part que Be'ezrat Hashem, on fera vers la fin de l'année.
Nahon, c'est plutôt que la Neshama, elle ne peut pas changer sa mode.
Nahon.
On dit que un clean, il ne peut pas recevoir plus que ce qu'il faut.
Nahon.
Je vais attaquer les
Nahon.
Si on va dans cet esprit-là, alors pourquoi quand quelqu'un maintenant il fera des efforts, il arrivera à surmonter des choses qu'avant il n'aura pas réussi quand il ne connaissait pas. Ça veut dire,
mais en fait, c'est pas ça. Je vais t'expliquer les choses. J'ai compris ta question. Est-ce que vous vous rappelez de la prophétie de la femme Shunamite qui n'avait plus d'argent pour payer ceux à qui il devait de l'argent? Et le prophète lui dit, va prendre des marmites et des casseroles et tous les kélim qui sont chez tes voisines. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez tous les voisins, elle a emprunté toutes les casseroles, tout ce qui était possible de remplir. Et chaque fois qu'elle amenait une casserole, elle se remplissait. Si elle avait pu apporter un bateau, il se serait rempli. Autrement dit, sa neshama était infinie. De base, elle est une partie divine. Chelek Eloha Mimal. Ça veut dire que ce que tu vas dévoiler dans ta vie, c'est seulement les ustensiles que tu auras présentés. Si tu viens avec un verre de 33 centilitres, eh bien on va te donner 33 centilitres de connaissances. Demain, tu vas venir avec un désir beaucoup plus fort de rentrer dans l'étude et tu vas faire les efforts. Ton kli va s'élargir, tu vas recevoir plus. Mais c'est la même neshama, elle n'a pas bougé.
Chaque personne peut venir avec.
C'est comme un fût avec de l'infini à l'intérieur et toi tu fais un trou. Tu fais un trou, qu'est-ce qui se passe? Tiens, un verre d'eau. Maintenant tu peux te dire, ça ne me suffit pas, je veux au moins 3 robinets. Et tu fais 3 trous. Mais c'est la même chose qui est dedans, qui sort sous 3 robinets. Maintenant tu vas faire un gros trou, tu vas avoir un gros canal qui va sortir, mais c'est la même chose, c'est toujours l'essence qui est à l'intérieur. Seulement l'arrivée va être beaucoup plus grande, moins grande, selon ce que tu auras présenté comme ustensile. Donc tout dépend de l'ustensile. Il y a fait mode. Comment moi je présente la chose?
Chaque personne ici peut
arriver. Matai yagiu maasai le maasai avotai Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que je pourrais arriver au niveau de Abraham, Yitzhak et Yaakov dans leurs actions? Alors quelqu'un qui ne sait pas ça, il te dit, mais ça va quand même, Yitzhak, Abraham, arrête. Pas du tout. Tu as une neshama divine. Si tu développes en toi le désir de recevoir, le vrai désir, c'est ça le kli, tu ne vas pas t'élargir, tu ne vas pas grossir. Hein. Grossir, ça veut dire vouloir plus. Ton ratson va changer. Mais si ton ratson change, au point où tu veux des choses réellement, bien tu vas le recevoir. Tu vas fabriquer toi-même comme un ustensile de réception. C'est tout.
Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on est en adéquation avec son âme?
Ça veut dire que tu ne présentes pas les ustensiles adéquats, c'est tout. Alors, au lieu de ton âme, elle pèse, je sais pas moi, une tonne, et tu lui portes un petit verre en plastique qui ne va pas tenir par rapport à la grandeur. Donc, à quoi tu joues? Ça veut dire que, et je vais le traduire maintenant avec des mots simples, tes désirs ne sont pas à la hauteur de ta neshama. Tu veux des bêtises à la place de vouloir la vraie lumière. Tu perds ton temps à chercher, à jouer avec des bêtises, alors que tu peux vouloir d'autres choses, mais tu n'as pas appris à vouloir autre chose, parce que tu te suffis du petit niveau dans lequel tu es. Et c'est ça le problème. Donc on se fait petit, et là je rentre une phase psychologique, on a peur de grandir. C'est tout. Chacun de nous a peur de grandir quelque part. Parce que ça lui convient bien, il est un petit peu sous la protection de l'un, de l'autre, de machin. Il ne veut pas prendre de responsabilité. À l'armée, ça s'appelle Rosh Katan. Okay. Donc quand on dit ceux qui veulent rentrer dans ce bunker un pas en avant, mais tout le monde fait un pas en arrière, il y a un qui reste devant. Okay. Mais dans l'armée Israël, ça ne marche pas comme ça. Les gens veulent. Ça veut dire que l'esprit Israël, c'est un esprit qui veut grandir. C'est pour ça que notre génération, et là je reviens à ce que tu disais, c'était très important, la génération aujourd'hui veut savoir comment, et pas seulement pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi et pas seulement comment. D'accord ? Donc il faut donner à cette génération les ustensiles et la lumière qu'elle aspire, cette génération. Sinon, elle va aller le chercher au Tibet ou en Chine.
Okay.
Tout simplement, on lui a rajouté une lampe pour dévoiler une phase de plus de sa même neshama. C'est tout. C'est pas un changement d'être. C'est tout simplement, on lui a apporté une nouvelle cartouche pour dévoiler plus. C'est tout. On lui a rajouté une lettre. C'est énorme. Mais c'est pas sa neshama qui a changé. Attention.
Son désir a changé.
Non, exactement. Sa manière de voir, d'appréhender la vie a changé.
Son mazal qui a changé.
Ma
son mazal, il a changé.
Qu'est-ce que c'est mazal? Écoulement. Nézila, mazal, nézila. Ça veut dire j'ai changé l'écoulement. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec le fût. Donc son mazal a changé, ça veut dire j'ai changé l'écoulement de la même chose qui venait en moi. Maintenant ça coule plus. C'est tout. Vous comprenez comment ça marche le système? On ne peut pas bouger, changer à l'intérieur. Ce qui bouge en nous, c'est tout simplement la capacité à recevoir, à capter les choses. Agrandi tant. Comment ça s'appelle? C'est la tzalachat, ta parabole, eh bien tu recevras plus. C'est tout. Agrandis ta capacité à recevoir des ondes, eh bien tu capteras toutes les radios du monde.
On va dire, je suis pas apte à recevoir.
Ça, c'est encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, la peur de grandir. C'est sur ça qu'il faut faire tchouva. C'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Ça veut dire que...
Non.
Alors cette parabole-là, vous êtes d'accord avec moi que je peux capter toutes les émissions du monde? Mais ça dépend de mon transistor.
Non, mais d'un côté, il ne faut pas avoir peur de grandir, donc il faut vouloir grandir, mais d'un autre côté, pourquoi moi je devrais grandir et pas un autre?
Mais je ne t'ai pas parlé de l'autre maintenant, je t'ai parlé de toi. Pourquoi tu dis que l'autre ne doit pas? Chacun de nous doit grandir, et quelle est la taille qui nous convient? C'est la taille de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu quand il nous a créés, c'est-à-dire devenir des révélateurs de son nom sur Terre. Tu sais ce que ça veut dire, révéler l'infini sur Terre? Il faut avoir une parabole, c'est pas une parabole ce qu'il faut avoir, c'est un parapluie et de milliards de kilomètres carrés. Tu es d'accord? Pour capter l'infini, pas pour capter des émissions. Si déjà dans ce monde je dois élargir mon poste transistor pour recevoir, à plus forte raison pour recevoir le divin.
Okay. Il y a beaucoup qui veulent des choses, mais je crois
ils veulent pas, ils font semblant de vouloir. Ils se font peur tout seuls. C'est comme des gens qui ne veulent pas guérir de leur maladie. Parce que ça les arrange d'être malades, parce que tout le monde les plaint et on s'occupe d'eux au moins. Il y a des gens qui veulent être malades. Quand vous étiez petit, vous aviez tous envie de vous mettre un plâtre. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a une plâtre et tout le monde se fait attention à lui. Machin.
Il y a un effort à fournir.
Il y a un effort, bevadaï. Bevadaï. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la teshuva qu'il faut véritablement travailler en nous, c'est de ne plus avoir peur de grandir. J'ai dit que les malades, beaucoup de malades, ne veulent pas guérir parce que ça les arrange d'être malades. C'est pour ça qu'ils n'expriment pas en réalité l'essence même de leur maladie. Dans le mot en français maladie, tu entends maladie. Il a du mal à dire ce qu'il a vraiment. Il a du mal à dire. Si tu dis bien, si tu exprimes, bien tu te dégages, tu sors. Donc la guérison, elle passe toujours par la parole d'abord. Pensée, parole et acte. Il y a des gens qui ont déjà guéri à l'intérieur d'eux, mais qui ne veulent pas croire qu'ils ont guéri, donc ils continuent à être malades. Et tu peux devenir malade à volonté. Si demain tu ne veux pas aller à l'école, tu peux finir par vomir en fin de soirée. Et avoir de la fièvre. Tout est dans la tête. Et dans la manière de vouloir la vie. Donc c'est à nous de changer notre façon de voir. Je ne vous dis pas des bêtises, hein, ce sont des choses qui sont réelles, aujourd'hui prouvables. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent sur le feu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi ou de moins que toi? On les a tout simplement hypnotisés pour les convaincre que ce n'est pas chaud. C'est pas bizarre ça? Pourtant c'est la même peau, c'est la même chair. Le type il s'enfonce des épées, des machins de partout, des trous de... C'est quoi ça? Eh bien c'est la même chose. C'est tout à l'intérieur de toi. Je peux t'hypnotiser maintenant et te prouver qu'il fait froid. Tu vas commencer à geler, à claquer des dents et tout. Et il fait 40 degrés dehors. Vous comprenez comment ça marche? Donc faites attention à ça. Ne croyez pas que notre âme, elle est toute petite comme ça et je dévoile, machin. Non, elle est immense, notre Neshama. Elle est divine. C'est une partie du divin. Et si j'arrive à dévoiler 1%, alvaï. Le Harizal nous dit que nous avons 25 parties de notre Neshama à révéler durant notre vie. Et bien entendu, la différence entre un degré et un autre de ces 25, c'est comme la différence entre un chien et un homme. Alors, imaginez-vous jusqu'où on peut aller. On a du boulot. Toda Rabba.